ravi de vous retrouver une fois de plus pour parler du 7e art, comme chaque mercredi de 11h à midi. Bonjour Alim, avec vous, vous connaissez la formule en première partie de ce rendez-vous, la sélection des sorties de ce mercredi. Ensuite, on marque une pause avec une révélation de la rentrée, Cathy Attard, jeune chanteuse parisienne, leader du groupe Louve et les Étoiles. Je vous en dis un peu plus dans un instant. Le portrait de la semaine est dédié à Marina Foïs. Aujourd'hui, elle partage l'affiche avec Samy Bouajila dans Orage, film français de Fabrice Camoin. Enfin, nous partons dans les archives du cinéma français, un film sorti il y a 10, 20, 30 ans, voire plus, histoire de se remémorer ou de découvrir un long métrage qui a marqué sa sortie. Bienvenue, Vue à la radio, c'est tout de suite. L'école belge du documentaire. L'école belge du documentaire apparaît en marge des fictions ou des reportages d'actualité. On voit apparaître après la Grande Guerre de petits films à caractère ethnologique, plutôt destinés aux spécialistes qu'au grand public. En effet, grâce au cinéma, on peut désormais enregistrer les traces des arts et traditions populaires et les méticuleux collectionneurs de documents et d'objets tels Joseph Maurice Remouchan trouve là un allié de choix. André Simon tourne ainsi des scènes telles que le tressage de la paille dans la vallée du Guire, exploitation d'une carrière, entre autres. La démarche que certains entreprennent en Wallonie est aussi celle du marquis Robert de Wavrin, qui explore inlassablement le continent sud-américain, d'où, à la manière d'un Robert Flaherty, il rapporte une série de témoignages sur des cultures aujourd'hui disparues. Le plus connu de ses courts-métrages est Au cœur de l'Amérique du Sud en 1924. Quant à Ernest Gimbal, c'est au Congo belge, où il avait déjà séjourné, qu'il part tourner une série de petits films pour le compte d'entreprises coloniales. Son long documentaire Le Congo qui s'éveille en 1927 serait ainsi un hymne aux réalisations civilisatrice, technico-industrielle et médicale de la Belgique dans la colonie. De leur côté, les scientifiques et notamment les médecins, dans la lignée du physiologiste Étienne-Jules Marais, entrevoient d'autres applications du cinéma. Antoine Castille filme nombre de cas pathologiques et grâce à lui, la neuropsychiatre Ovid de Crolly, formée à l'université de Gand, met la pellicule au service de ses études sur la psychologie génétique. Le pédagogue peut ainsi observer le comportement des enfants au fil des ans. Ces films datent de 1923 ou de 1932 avec le professeur Léon Laruelle, par exemple hémorragie cérébrale ou procédé de sensibilisation du système nerveux. Par ailleurs, Castille se lance dans une vaste entreprise d'ethnologie intérieure en filmant les fêtes de Belgique. Aussi, il enregistre les gestes du travail traditionnel. Ces films sont des documents anthropologiques sur une époque révolue. À la fin des années 20, juste avant l'avènement du parlant, deux cinéastes belges d'envergure se font connaître, Charles Duquequelair pour ses films d'avant-garde et Henri Storck pour ses essais documentaires sur Ostende. Duquequelair se passionne très tôt pour le cinéma et ses maîtres ont pour nom Germaine Dulac, Jean Epstein, Marcel Lherbier, etc. Mais aussi Dziga Vertov. Construit, son court-métrage Combat de boxe en 1927, réalisé dans des conditions très précaires, mais avec de vrais boxeurs, utilise avec virtuosité toutes les ressources de ce nouveau langage. Cinéphile averti, il puise aussi son inspiration du côté des plasticiens tels que Man Ray, Fernand Léger ou Marcel Duchamp. Il poursuit ses recherches formelles avec Impatience et Histoire de détective en 1929. Puis, il tourne nombre de documentaires jusque dans les années 1950. Revenons à nos jours pour la sélection des sorties de ce mercredi. « premier long métrage retenu pour vous, il s'agit de Asphalt, un drame français réalisé par Samuel Benchetrit avec Isabelle Huppert, Gustave Carverne et Valeria Bruni-Tedeschi. L'histoire se déroule dans un immeuble, dans une cité, un ascenseur en panne. Trois rencontres, six personnages. Sternkowitz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l'amour d'une infirmière de nuit? Charlie Lado, délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80, et qu'arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli par Madame Amida?
Vous êtes infirmière?
Je suis photographe, moi.
Pourquoi t'es venue vivre ici? Tu tutoies toujours les gens?
Ouais.
T'es actrice?
Ouais.
Mais t'es connue?
Bah ouais. Ils sont où tes parents?
Ils sont morts.
Ah mais...
Non, je déconne. Je vis avec ma mère.
Oh, t'es con.
My name is John McKenzie.
Vous êtes témoin de Jéhovah?
Nous allons venir le chercher. Mais en attendant, pouvez-vous le garder chez vous?
Bien sûr. Ce soir, manger couscous.
Vous avez fait le tour du monde?
Trois quarts.
Il y a un astronaute américain qui habite à la maison.
Mais il vient d'où celui-là?
Pas de l'espace.
D'Alzheimer?
Je voudrais vous photographier.
Vous vous moquez de moi, c'est ça?
Non. Very good.
Oui, sourire.
J'arrive pas comme ça. C'est comment l'espace?
Asphalt, un film de Samuel Benchetrit, dans lequel il parvient à conjuguer un fort sens de la mise en scène et une direction de comédien au cordeau pour vous offrir un instant à part. Nous passons à la seconde sélection du jour, il s'agit de Fever, film français de Raphaël Niel avec Martin Loisillon, Pierre Moore et Julie-Marie Parmentier. Paris, début des années 2000, à quelques semaines du bac, Damien et Pierre assassinent une femme choisie au hasard dans la rue, suivant le concept philosophique qu'ils ont eux-mêmes forgé. On ne peut être puni pour un acte commis en suivant le hasard. Zoé, une opticienne, se prend de passion pour ce fait divers qui l'angoisse et qui l'attire.
Dans des conditions de terreur, la plupart des gens s'inclineront. Mais certains ne s'inclineront pas.
Il y a une femme qui s'est pas assassinée chez elle hier.
Le jour du meurtre, dans la rue, j'ai croisé deux petits mecs, tu vois, deux lycéens, genre tout propres, tout mignonnés.
Beau ?
Arrête ! Bah quoi ? Depuis, je me dis que c'est eux.
Avant de marquer une pause et de vous faire découvrir l'une des révélations musicales de cette rentrée, nous passons à la troisième et dernière sélection de ce mercredi avec « Je suis à toi », un drame qui nous vient de Belgique, réalisé par David Lambert, avec dans les rôles principaux Jean-Michel Baltazar, Monia Chokri et Nahuel Pérez-Biscariat. Lucas, un jeune Argentin démuni, fait tout ce qu'il peut pour survivre à Buenos Aires. Sur Internet, il rencontre Henri, un boulanger belge qui souffre de solitude et qui rêve de le sauver de la prostitution. Lucas traverse l'Atlantique et arrive dans un petit village de Belgique pour devenir l'apprenti de Henri. I'm like a caller and you're like a wave.
Transgression is clearly one of your games. Hello, bienvenue en Belgique. Va falloir être autonome, hein. Je t'apprends les spécialités du coin. D'accord?
Et voilà la chambre.
J'ai besoin de 10 euros.
J'ai besoin de 10 euros.
Non mais il est marqué banque ici ou quoi?
Arrête.
Parce que je t'aime!
Ça ne doit pas se savoir, d'accord? J'ai pas envie de passer pour le cocu du village, moi.
film intimiste sur la confusion des sentiments en abordant des sujets actuels tels que la prostitution, les réseaux sociaux et la solitude affective. Il est l'heure de retrouver l'une des révélations de cette rentrée. Elle a plus d'un talent. Elle considère l'art comme étant le langage spirituel. C'est ainsi que l'on peut définir Louve et les étoiles, alias Cathy Attard, leader de ce groupe. Après des études de communication, désireuse de rejoindre le journalisme, le parcours de Cathy Attard l'emmène sur les planches au théâtre. Les Folies Bergères à Paris l'engagent sans pour autant arrêter les cours d'art dramatique, une passion qui l'anime depuis toujours. Puis les portes du Crazy Horse s'ouvre pour l'accueillir et se l'accaparer pendant 8 ans. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Louve et les étoiles, alias Cathy Attard, un extrait qui résume sa sensibilité, âme paisible. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour parler du 7e art, comme chaque mercredi de 11h à midi. Bonjour Alim, avec vous, vous connaissez la formule en première partie de ce rendez-vous, la sélection des sorties de ce mercredi. Ensuite, on marque une pause avec une révélation de la rentrée. Cathy Attard, jeune chanteuse parisienne, leader du groupe Louve et les Étoiles. Je vous en dis un peu plus dans un instant. Le portrait de la semaine est dédié à Marina Foïs. Aujourd'hui, elle partage l'affiche avec Samy Bouajila dans Orage, film français de Fabrice Camoin. Enfin, nous partons dans les archives du cinéma français, un film sorti il y a 10, 20, 30 ans, voire plus, histoire de se remémorer ou de découvrir un long métrage qui a marqué sa sortie. Bienvenue, vu à la radio, c'est tout de suite. L'école belge du documentaire. L'école belge du documentaire apparaît en marge des fictions ou des reportages d'actualité. On voit apparaître après la Grande Guerre de petits films à caractère ethnologique, plutôt destinés aux spécialistes qu'au grand public. En effet, grâce au cinéma, on peut désormais enregistrer les traces des arts et traditions populaires et les méticuleux collectionneurs de documents et d'objets tels Joseph Maurice Remouchamp trouve là un allié de choix. André Simon tourne ainsi des scènes telles que le tressage de la paille dans la vallée du Guire, exploitation d'une carrière, entre autres. La démarche que certains entreprennent en Wallonie est aussi celle du marquis Robert de Wavrine, qui explore inlassablement le continent sud-américain, d'où, à la manière d'un Robert Flaherty, il rapporte une série de témoignages sur des cultures aujourd'hui disparues. Le plus connu de ses courts-métrages est au cœur de l'Amérique du Sud en 1924. Quant à Ernest Gimbal, c'est au Congo belge, où il avait déjà séjourné, qu'il part tourner une série de petits films pour le compte d'entreprises coloniales. Son long documentaire Le Congo qui s'éveille en 1927 serait ainsi un hymne aux réalisations civilisatrice, technico-industrielle et médicale de la Belgique dans la colonie. De leur côté, les scientifiques et notamment les médecins, dans la lignée du physiologiste Étienne-Jules Marais, entrevoient d'autres applications du cinéma. Antoine Castille filme nombre de cas pathologiques et grâce à lui, la neuropsychiatre Ovid de Crolly, formée à l'université de Gand, met la pellicule au service de ses études sur la psychologie génétique. Le pédagogue peut ainsi observer le comportement des enfants au fil des ans. Ces films datent de 1923 ou de 1932 avec le professeur Léon Laruelle, par exemple hémorragie cérébrale ou procédé de sensibilisation du système nerveux. Par ailleurs, Castille se lance dans une vaste entreprise d'ethnologie intérieure en filmant les fêtes de Belgique. Aussi, il enregistre les gestes du travail traditionnel. Ces films sont des documents anthropologiques sur une époque révolue. À la fin des années 20, juste avant l'avènement du parlant, deux cinéastes belges d'envergure se font connaître. Charles Duquesclair, pour ses films d'avant-garde et Henri Storck pour ses essais documentaires sur Ostende. De Koechler se passionne très tôt pour le cinéma et ses maîtres ont pour nom Germaine Dulac, Jean Epstein, Marcel Lherbier, etc. Mais aussi Dziga Vertov. Très construit, son court-métrage Combat de boxe en 1927, réalisé dans des conditions très précaires mais avec de vrais boxeurs, utilise avec virtuosité toutes les ressources de ce nouveau langage. Cinéphile averti, il puise aussi son inspiration du côté des plasticiens tels que Man Ray, Fernand Léger ou Marcel Duchamp. Il poursuit ses recherches formelles avec Impatience et Histoire de détective en 1929. Puis, il tourne nombre de documentaires jusque dans les années 1950. Revenons à nos jours pour la sélection des sorties de ce mercredi. Premier long métrage retenu pour vous, il s'agit de Asphalt, un drame français réalisé par Samuel Benchetrit avec Isabelle Huppert, Gustave Carverne et Valeria Bruni-Tedeschi. L'histoire se déroule dans un immeuble, dans une cité, un ascenseur en panne. Trois rencontres, six personnages. Sternkowitz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l'amour d'une infirmière de nuit? Charlie, l'ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80? Et qu'arrivera-t-il à John Mackenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli par Madame Amida?
Vous êtes infirmière?
Je suis photographe, moi.
Pourquoi t'es venue vivre ici?
Tu tutoies toujours les gens?
Ouais. T'es actrice?
Ouais.
Mais t'es connue?
Bah oui. Ils sont où tes parents?
Ils sont morts.
Ah mais...
Non, je déconne. Je vis avec ma mère.
Oh, t'es con.
My name is John Mackenzie.
Vous êtes témoin de Jéhovah?
Nous allons venir le chercher. Mais en attendant, pouvez-vous le garder chez vous?
Bien sûr. Ce soir, manger couscous.
Vous avez fait le tour du monde?
Trois quarts.
Il y a un astronaute américain qui habite à la maison.
Il vient d'où, celui-là?
Pas de l'espace.
D'Alzheimer?
Je voudrais vous photographier.
Vous vous moquez de moi, c'est ça?
Non. Very good.
Oui, sourire.
J'arrive pas comme ça.
C'est comment l'espace?
Asphalt, un film de Samuel Benchetrit, dans lequel il parvient à conjuguer un fort sens de la mise en scène et une direction de comédien au cordeau pour vous offrir un instant à part. Nous passons à la seconde sélection du jour, il s'agit de Fever, film français de Raphaël Niel avec Martin Loisillon, Pierre Moore et Julie-Marie Parmentier. Paris, début des années 2000, à quelques semaines du bac, Damien et Pierre assassinent une femme choisie au hasard dans la rue, suivant le concept philosophique qu'ils ont eux-mêmes forgé. On ne peut être puni pour un acte commis en suivant le hasard. Zoé, une opticienne, se prend de passion pour ce fait divers qui l'angoisse et qui l'attire.
Dans des conditions de terreur, la plupart des gens s'inclineront. Mais certains ne s'inclineront pas.
Il y a une femme qui s'est pas assassinée chez elle hier. Le jour du meurtre, dans la rue, j'ai croisé deux petits mecs, tu vois, deux lycéens, genre tout propres, tout mignonnés.
Beau ?
Arrête !
Bah quoi ?
Depuis, je me dis que c'est eux.
Avant de marquer une pause et de vous faire découvrir l'une des révélations musicales de cette rentrée, nous passons à la troisième et dernière sélection de ce mercredi avec « Je suis à toi », un drame qui nous vient de Belgique, réalisé par David Lambert, avec dans les rôles principaux Jean-Michel Baltazar, Monia Choukri et Nahuel Pérez Biscariat. Lucas, un jeune Argentin démuni, fait tout ce qu'il peut pour survivre à Buenos Aires. Sur Internet, il rencontre Henri, un boulanger belge qui souffre de solitude et qui rêve de le sauver de la prostitution. Lucas traverse l'Atlantique et arrive dans un petit village de Belgique pour devenir l'apprenti de Henri. I'm like a caller and you're like a wave.
Transgression is clearly one of your games. Hello. Bienvenue en Belgique.
Va falloir être autonome, hein. Je t'apprends les spécialités du coin. D'accord?
Et voilà la chambre.
J'ai besoin de 10 euros.
Le beau joint de 10 euros. Non mais il est marqué banque ici ou quoi?
T'énerve, arrête.
Parce que je t'aime.
Ça doit pas se savoir, d'accord? J'ai pas envie de passer pour le cocu du village, moi.
Un film intimiste sur la confusion des sentiments en abordant des sujets actuels tels que la prostitution, les réseaux sociaux et la solitude affective. Il est l'heure de retrouver l'une des révélations de cette rentrée. Elle a plus d'un talent. Elle considère l'art comme étant le langage spirituel. C'est ainsi que l'on peut définir Louve et les étoiles, alias Cathy Attar, leader de ce groupe. Après des études de communication, désireuse de rejoindre le journalisme, le parcours de Cathy Attar l'emmène sur les planches au théâtre. Les Folies Bergères à Paris l'engagent sans pour autant arrêter les cours d'art dramatique, une passion qui l'anime depuis toujours. Puis les portes du Crazy Horse s'ouvre pour l'accueillir et se l'accaparer pendant 8 ans. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Louve et les étoiles, alias Cathy Attar, un extrait qui résume sa sensibilité, âme paisible. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien. Étoiles, un extrait de son album que vous pouvez écouter sur le www.louve.com. Attention, Louve s'écrit L-O-O-V-E. www.ouve.com. Sachez qu'elle sera le 20 octobre prochain sur la scène de l'étage au Faubourg du Temple à Paris, 10e arrondissement. Un concert que nous vous suggérons fortement si vous êtes de passage à Paris. C'est l'heure du portrait de la semaine. Aujourd'hui, nous dressons le portrait de Marina Foïs, née dans une famille d'origine russe, juive, égyptienne, allemande et italienne. Marina Foïs découvre en 1986, à l'âge de 16 ans, sa passion pour la comédie dans l'école des femmes, mise en scène par son ancien baby-sitter. Elle décide alors de suivre des cours par correspondance et obtient son bac 2 ans plus tard. D'abord seule, elle rejoint la troupe The Royal Imperial Green Rabbit Company, qui devient par la suite les Robins des Bois. Cette troupe est composée d'élèves du cours Florent, de la classe d'Isabelle Nanty, qui joue d'ailleurs avec eux dans la pièce qui les propulse vers le succès Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Remarquée par Dominique Farrugia en 1996, Marina Foïs et la troupe se voient offrir de jouer quotidiennement en direct sur la chaîne Comédie dans la grosse émission pendant 2 ans. Pendant cette période, Marina Foïs coécrit de nombreux sketchs avec Pierre-François Martin Laval et campe des personnages divers et variés, allant de Sophie Pétoncule, d'une stupidité confondante et jusqu'à la metteuse en scène Marie Mure, pédante et autoritaire. Ils continuent l'année suivante leur apparition sur Canal+, se découvrant alors à un public grandissant. À partir de juin 2001, Marina et la troupe se libèrent de leurs obligations quotidiennes pour se consacrer de plus en plus au cinéma. Parmi eux, Marina Foïs devient l'une des actrices les plus productives en jouant dans presque 3 films par an. Aujourd'hui, elle partage l'affiche avec Samy Bouajila, nouveau long métrage réalisé par Fabrice Camoin avec pour titre Orage. Orage se déroule en Espagne. L'orage, la chaleur, le crime, l'adultère, les vacances. Dans un hôtel, on s'arrête pour la nuit. La pluie est bien trop forte pour gagner Séville. Un bruit, un fait divers, un homme, Nabil Malek, vient de tuer sa femme et l'amant de celle-ci.
Vu que je vous dise ce qui se passe vraiment dans cette ville, la police recherche un homme qui a tué sa femme et son amant.
Bah, une balle dans la tête, il les a tués tous les deux.
Tué par amour, c'est beau, non? Tu tuerais par amour, toi?
Quand est-ce que tu vas arrêter de boire, maman?
J'ai bien fait d'inviter Louise, non? Ça, tu vas me laisser un peu tranquille. Je vais vous aider. Venez.
C'est quoi ton truc? Tu veux sauver un arabe, c'est ça?
Avec tes airs de bourgeoise alcoolique, là.
Je vais en sauver un autre.
Et je le trouve où?
Pourquoi t'as appelé la police?
Maman!
Judith! J'ai pas envie de te parler, passe-moi Judith.
Les flics, ils savent qu'on est ensemble.
Dans un rêve, tu comprends pas ça? Tu pourras jamais être à ma place. Arrête-toi là.
Je ne peux pas.
Orage librement adapté de 10h30 du soir en été de Marguerite Duras. C'était Vu à la radio, votre rendez-vous hebdomadaire avec le 7e art. Je vous laisse en compagnie de Béatrice Malige pour un nouveau Ciné Plus. Je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles sélections. N'oubliez pas que le cinéma est un œil ouvert sur le monde. Bonne séance à toutes et à tous. Bye bye. We'll be right back.
Thank you.